Bonjour à tous. Partager la parole, et on a quelqu'un qui a pris quelques jours sur ses congés pour aller travailler l'écriture. C'est toujours un exercice particulier. Avec Michel, on est souvent une fois sur deux, avec un temps de repos quand Francine apporte un message ou des invités. Mais on se pose toujours la question, mais est-ce qu'il y a du fruit, est-ce qu'il y a du résultat à cette parole que nous partageons? Juste une petite, un petit témoignage comme ça. Cette semaine, nous étions invités à déjeuner chez des amis et la personne qui nous recevait nous dit bah, « Dimanche matin, moi, j'avais décidé d'aller... je vais pas donner tout le témoignage de ce qu'il m'a rapporté parce que j'aimerais qu'il le fasse lui-même. » Il était dans l'attente de choisir, de décider par rapport à certaines choses vis-à-vis du Seigneur. Il est en marche, Et il disait, dimanche, j'avais décidé d'aller travailler, parce qu'il peut travailler, il doit travailler parfois le dimanche. J'avais décidé de travailler, et puis pas forcément d'aller à l'église. Pendant qu'il était sur la route, il se dit, ah, peut-être que ça serait bien quand même que j'aille à l'église. Et puis... quand il s'est mis en route, il était là, je travaillais, je vais à l'église. Hein, et puis il me disait cette semaine qu'il dit « ça serait peut-être bien que j'aille à l'église quand même ». Et sur la quatre voies, sur un pont, il voit une grande banderole. Et sur cette banderole, il était écrit en substance, hein, d'après ce que je me rappelle, il était écrit en substance « Où te conduiront tes pas s'ils ne te conduisent pas à Jésus et à la vie ? Sur un pont, sur une grande banderole. Et dit, il y a parfois des moments où Dieu nous parle d'une manière très claire. Je dis, bah ouais, là, il n'y a pas plus clair. Moi, je dis, je suis là depuis 40 ans, je n'ai jamais vu une banderole sur un pont qui me parlait et où Jésus me disait, bah voilà, c'est la direction que tu dois prendre. Donc, il est allé travailler quelques instants, puis il est allé ensuite à l'église et puis il avait mis ce qu'on appelle une toison et avait dit, bon, j'ai introduit le culte dimanche dernier par le fait de choisir. Donc déjà, la personne se dit, ah, donc j'ai un choix à faire, donc il faut que je choisisse. Bon, OK. Et puis à ce moment-là, pendant le culte, il dit, si telle personne prie au moment de la scène, je prends ma décision. Ah, c'est Gédéon, hein, c'est la prière de Gédéon. On se dit, c'est quand même un petit peu... Est-ce que ce n'est pas de la provocation quand on pose ça, une forme d'ultimatum à Dieu? Et puis, il a attendu, et la personne a prié à ce moment-là. Il dit, bon, d'accord, Seigneur, j'y vais. Comme quoi, la parole de Dieu, quand elle nous rencontre, peut transformer notre vie d'une manière radicale. C'est ce qui s'est passé pour cette personne-là, et j'espère qu'elle pourra donner son témoignage, parce que c'est vraiment un témoignage merveilleux. Alors, ce matin, je vais partager la parole, parce que je crois qu'elle est utile, qu'elle peut nous permettre de recevoir quelque chose du Seigneur. Ma petite fille, qui n'est plus là, mais ma petite fille Erine, est rentrée dans mon bureau avant-hier, et j'étais avec un livre dans les mains, et elle m'a dit, « Papili, qu'est-ce que tu fais ?» J'ai commencé par dire « je range mes livres ». Puis après, vu l'état de mon bureau, je dis « je déplace mes livres ». Parce que qui me connaît sait que c'est un classement très personnel. Et j'avais entre les mains, je lui disais bah, « et c'est quoi le livre que tu as ?» Et j'avais entre les mains un livre que j'ai très peu ouvert. Je l'ai plus acheté pour ce qu'il représentait que pour le contenu que je connais. C'était un livre que j'avais acheté il y a de nombreuses années, qui est « L'imitation de Jésus-Christ » de Thomas à Kempis. Et j'étais en train de le feuilleter. C'est un livre qui a été offert en 1720 à une femme, dont j'ai le nom, Madame de Villard, en 1720. Le livre est paru, a été édité en 1705. Je crois que ça devait être... Il y a l'autorisation de diffusion par Louis XIV et tout dans le livre. Et je le lisais. Et dans ce livre-là, l'imitation de Jésus-Christ, c'est comment est-ce que le croyant doit se conformer à la personne de Christ. Et comment la parole nous aide en cela. Et j'étais en train d'ouvrir cet ouvrage qui était là dans ma bibliothèque, et dedans, il y avait un passage, une phrase toute simple, c'est « Nous rendons grâce à Dieu de ce qu'il nous a donné sa parole afin de nous conduire dans toute la vérité à l'image de Jésus-Christ. » Et je lisais cette phrase-là et je me disais, en 1720, il y a une femme qui s'appelait Madame Villard ou de Villard qui lisait ces mots-là. Comment est-ce que nous recevons, nous aussi, la parole de Dieu dans notre vie? Est-ce que nous avons ce même sérieux, cette même soif, cette même envie, ce même désir d'être confrontés à la parole? Alors, je disais à ma petite fille, oui, bah, c'est un livre. C'est un livre qui est très, très vieux. Celui-ci, il est de 1705. Ah bon? Bon, puis elle est partie jouer. Elle ne s'est pas rendue compte, 1705, d'où ça venait. Et je me disais, mais est-ce que l'écriture peut être pour nous quelque chose d'aussi précieux qui nous conduise vers la vie et vers Jésus-Christ pour être à sa ressemblance? Alors, l'été, j'aime bien reprendre des textes un petit peu connus. Et cette fois-ci, j'ai décidé de vous parler de la résurrection de Lazare. C'est un texte qu'on peut vite enfermer dans un miracle extraordinaire. Il y a plusieurs résurrections dans le Nouveau Testament qui sont attribuées à Jésus-Christ. Il y a la fille de Jaïrus, le fils de la veuve de Nain, et puis il y a Lazare. Et on se dit, ouais, c'est formidable, le prince de la vie fait revenir à la vie des gens qui sont morts. Ce texte de la résurrection de Lazare est beaucoup plus que cela. Et on va essayer de le parcourir ensemble. Au chapitre 11 de l'évangile de Jean, ça peut être affiché si vous avez la possibilité, mais je vais vous le lire. Écoutez. Il y avait un malade, Lazare, de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. Marie était celle qui oignit de parfum le Seigneur et lui essuya les pieds avec ses cheveux, et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyaient dire à Jésus, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est pas pour la mort, mais pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Quand il eut appris que celui-ci était malade, il resta encore 2 jours à l'endroit où il était. Puis il dit aux disciples, « Retournons en Judée. » Les disciples lui dirent, « Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider et tu y retournes. » Jésus répondit, « N'y a-t-il pas 12 heures dans le jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne trébuche pas parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il trébuche parce que la lumière n'est pas en lui. » Après ces paroles, il leur dit, « Lazare, notre ami, s'est endormi, mais je pars pour le réveiller. » Les disciples lui dirent, « Seigneur, s'il s'est endormi, il sera sauvé. » Jésus avait parlé de sa mort, mais eux pensèrent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, « Lazare est mort. Et pour vous, je me réjouis de n'avoir pas été là, afin que vous croyiez, mais allons vers lui. » Sur ce, Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, « Allons, nous aussi, afin de mourir avec lui. » À son arrivée, Jésus trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le tombeau. Or, Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ. Beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler au sujet de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort, mais maintenant même je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te le donnera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même s'il était mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? » Elle lui dit, Oui, Seigneur. Je crois que tu es le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. » Après avoir dit cela, elle s'en alla, puis elle appela Marie, sa sœur, et lui dit secrètement, « Le Maître est ici et il t'appelle. » Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et se rendit vers lui, car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient dans la maison avec Marie et qui la consolaient la virent se lever promptement et sortir. Ils la suivirent, pensant qu'elle allait au tombeau pour y pleurer. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Quand Jésus vit qu'elle pleurait et que les Juifs venus avec elle pleuraient aussi, il frémit en son esprit et fut troublé. Il dit « Où l'avez-vous mis ?»« Seigneur, lui répondit-il, viens et vois. » Jésus pleura. Les Juifs dirent donc, « Voyez comme il l'aimait !» Et quelques-uns d'entre eux dirent, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne meure pas ?» Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au tombeau. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, « Ôtez la pierre !» Marthe, la sœur du mort, lui dit, « Seigneur, il sent déjà car c'est le quatrième jour. » Et Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Ils ôtèrent donc la pierre. Jésus leva les yeux en haut et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule de ceux qui se tiennent ici, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Après avoir dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandelettes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » C'est une lecture un peu longue, je vous l'accorde. Mais c'est un texte qui va au-delà d'un récit de résurrection. On se trouve à Béthanie, et il est annoncé à Jésus que Lazare, un ami, est malade, et qu'il est invité à venir, c'est sous-entendu. Lui qui guérit tellement de malades, c'est une demande tout à fait légitime. Il a guéri tant d'hommes et de femmes pendant son ministère. Et là, il est là. Il est parti au-delà du Jourdain. Il a été sujet aux menaces des religieux juifs qui cherchaient à mettre la main sur lui. Donc, il a franchi le Jourdain. Il est allé dans une région qui s'appelle le Péré, au-delà du Jourdain. Et là, il continue à annoncer le royaume de Dieu. C'est là que Marthe et Marie, mais surtout Marthe, l'envoient chercher. Béthanie, c'est la ville où elles habitent. Aujourd'hui, cette ville s'appelle El Haziri. C'est le nom arabe de Lazare, El-Haziri, le nom arabe. C'est un village plutôt pauvre, sur le versant oriental du Mont des Oliviers, à environ 6h à 7h30 de marche de là où se trouve Jésus. 7h30, c'est-à-dire une bonne marche dans une journée. C'est juste pour vous dire que la distance n'est pas si énorme que cela. Jésus attend 2 jours quand il reçoit le message et il se met en route seulement ensuite le 4e jour lorsqu'il arrive à Béthanie. Il y a quelque chose d'étonnant dans ce texte-là. D'abord, c'est un des rares textes qui parle de l'amitié humaine de Jésus. L'évangile de Jean a ceci de particulier, c'est que vous avez 3 évangiles synoptiques. Matthieu, Marc, Luc, qui sont des évangiles qu'on peut lire sur 3 colonnes côte à côte. Et quand vous, synopticos, c'est lire ensemble. Et ils se déroulent de la même manière. Jean, c'est le dernier évangile. Il est écrit alors que l'apôtre Jean est emprisonné, ou en tout cas en surveillance sur l'île de Patmos. Interdiction de sortir, les autorités jugeant que son message déstabilisait l'Empire romain. C'est là qu'il va écrire l'Évangile de Jean et l'Apocalypse. J'aime beaucoup le surnom qui est donné à Jean, l'aigle de Patmos, c'est-à-dire que c'était un aigle qui voyait loin, et le fait de l'emprisonner sur une île n'a rien changé à l'influence qu'il pouvait avoir pour l'Église, les croyants de tous les temps. Est-ce que ça peut être aussi notre position d'être des aigles ou des moineaux ? C'est-à-dire d'être des hommes et des femmes qui, animés par le Saint-Esprit, sont en capacité de voir loin et de proclamer le royaume de Dieu avec puissance et autorité. En tout cas, Jean, ça ne l'a pas empêché d'écrire son évangile. Et la particularité de son évangile, c'est qu'il souligne la double personne de Christ, à la fois comme homme et à la fois comme Dieu. C'est vraiment quelque chose qu'on retrouve dans tout l'évangile. Il est homme, il est Dieu. Et c'est ce qui a fondé, en quelque sorte, cette foi que nous avons d'un Dieu qui s'est fait homme et d'un homme qui était Dieu. Et là, il est dit qu'il aimait particulièrement, il avait des amis, et là, c'est l'humanité. C'est Jésus homme, il avait des amis. J'ai en ce moment à la maison des personnes qui sont amies. Elles m'ont dit que c'était depuis la maternelle. Je dis, waouh, c'est bien, c'est beau de l'amitié comme ça. Eh bien, Jésus avait des amis. Oh, pas beaucoup. Les trois dont il est parlé, c'est Lazare, Marthe et Marie. Dans l'évangile de Luc, on voit, par exemple, qu'il est allé manger chez Marthe et Marie. Lazare n'était pas là, on ne sait pas où il était, mais en tout cas, il est allé manger chez elle. Mais c'était ses amis à Béthanie. Alors, moi, j'aime bien avoir un Dieu qui a une capacité à aimer ses amis. Avoir un Dieu dont il est dit qu'il vient vers les hommes, c'est une chose, mais avoir un Dieu qui est capable de tisser une relation d'amitié, d'amour. Et c'est ce que Jésus veut être pour chacun de ceux qui lui sont confiés par Dieu. Moi, je raconte dernièrement qu'on a les copains d'avant. Vous savez, c'est cette application où on peut retrouver ceux qui étaient en classe avec nous quand on était jeunes. J'ai reçu une invitation pour qu'un garçon, il y en a plein, qui était en sixième avec moi, devienne « Veux-tu être son ami ?» Pendant 3 ans, il m'a craché dessus, il m'a insulté parce que j'étais à moitié vietnamien. Et à 66 ans, il faudrait qu'il soit mon ami. Je dis non, pas vraiment. J'ai pas trop envie. Donc, j'ai failli m'inscrire juste pour lui dire ce que je pensais de son invitation. Puis, je ne l'ai pas fait. Je suis quand même un tout petit peu chrétien. Donc, j'ai dit non, je ne vais pas le faire. Mais est-ce qu'on peut profiter de Christ comme d'un ami ? C'est quelqu'un qui soit à ses côtés. Même quand je suis de mauvaise humeur, même quand je me dispute avec mon ami, ça arrive, parfois. Mais l'amitié demeure, le lien est là, la volonté d'être ensemble est toujours là. Est-ce que je peux avoir cette amitié-là avec Christ ? Il s'est déplacé. Et les disciples, quand ils voient la démarche de Jésus, il est dit qu'il commence à réagir, puisque Marthe et Marie lui demandent de venir. Le messager est venu et a dit, voilà, ton ami est malade, viens. Et Jésus reste 2 jours. Or, lorsqu'on connaît la distance dont je parlais tout à l'heure, c'est 6 à 7 heures de marche. Jésus reste. Ça veut dire que quelque part, on se pose la question, mais quand Lazare est-il mort ? Est-ce qu'il est mort pendant les 2 jours ? Mais en fait, on s'aperçoit que dans le texte grec, lorsque Marthe et Marie envoient le messager, Lazare est malade. Mais quand le messager se met en route, Jésus attend 2 jours et seulement après, il se met en route. Mais quand il arrive sur place, il est dit qu'il demande à être conduit au tombeau et Marthe, à 2 reprises, dira, mais il est enseveli depuis 4 jours. Ça veut dire que quelque part, la mort de Lazare s'est produite au moment où le messager est parti. C'est-à-dire que Jésus se serait déplacé ou pas déplacé, ça n'aurait rien changé. Lazare est déjà mort au moment où le messager se met en route. Ce récit sur la résurrection de Lazare nous parle du rapport de Christ par rapport au péché et par rapport à la mort. Nous sommes tous des Lazares en puissance. Il y a en nous des domaines, des parties de notre vie qui ont été touchées par le péché et qui sont, nous semble-t-il, même à nous, morts. C'est-à-dire quelque chose qui ne pourront pas être vivants de nouveau. Et parfois, on regarde notre vie, on se dit, bah, ça, c'est terminé, c'est fini. Cela ne sera plus. Nous sommes tous des Lazares qui pouvons recevoir la visite de Christ et qui, face à ce qui est mort, peuvent être confrontés à l'œuvre de résurrection de Christ dans notre vie. C'est cela qui fait la différence dans le message de l'Évangile et tous les messages religieux qui peuvent exister. Christ est le prince de la vie. Il a été homme, il a subi la mort sans être pécheur, et il dit par là que la puissance de résurrection qui est en lui peut s'accomplir dans mon existence. Non, Seigneur, c'est mort. Je me rappelle d'une femme qui me disait « J'ai toujours rêvé d'être pianiste quand j'étais jeune. » Et puis la vie, les choix que j'ai faits, etc. Et elle avait à l'époque une cinquantaine d'années. Elle disait « C'est terminé, je ne serai plus. » C'est pour ça que quand ma femme, à 55 ans passés, m'a dit « J'ai décidé d'acheter une harpe et de me mettre à la harpe. » Parce qu'en elle, il y avait quelque chose de vivant, un désir, une envie, et quelque chose qui était là. Qu'est-ce qui est mort dans ta vie et que Dieu peut rendre vivant tout à nouveau ? Parce qu'il est vie et résurrection. Lorsque les disciples entendent Jésus, il dit, mais les Juifs, tout récemment, cherchaient à te lapider et tu y retournes. Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures dans le jour ? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne trébuche pas parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il trébuche parce que la lumière n'est pas en lui. C'est une formulation qu'on peut survoler en se disant, oui, donc, quand il fait jour, il y a de la lumière, quand il fait nuit, il n'y en a pas. Donc, il vaut mieux marcher le jour. Oui, c'est un petit peu simple. En fait, lorsque Jésus parle de 12 heures, il dit que celui qui accomplit la marche ou l'œuvre à laquelle il est appelé ne bronche pas. Le jour désigne ici à la fois le temps de la vie et la tâche qui est donnée pour ce temps-là à l'ouvrier ou à l'ouvrière. C'est-à-dire que le jour fait référence dans l'évangile de Jean, au chapitre 9, verset 4, où il est dit « Il nous faut travailler tant qu'il fait jour aux œuvres de celui qui m'a envoyé. » Ah, ça veut dire que le jour, c'est la situation quand je suis en position d'accomplir les œuvres de Dieu qu'il me confie. Alors tout à coup, ça veut dire, aux disciples, il dit, voilà, il s'agit de, il fait jour et je suis là pour accomplir la volonté de mon Père. Et la question se pose, est-ce qu'aujourd'hui il fait jour dans ta vie ? C'est-à-dire, est-ce que tu es dans la position d'accomplir la volonté, les œuvres que Dieu t'appelle à accomplir ? Est-ce que c'est le cas ? Si c'est le cas, alors tu marches dans le jour et tu ne bronches pas, tu ne trébuches pas. Jean 9, verset 4. Mais si tu as décidé de ne pas accomplir les œuvres de Dieu dans ta vie, alors tu es dans la nuit. On peut dire, oui, tu es vivant. Mais c'est une manière de dire, ce qui est vivant en toi n'est pas là, n'est pas présent, n'est pas actif. Alors, c'est la différence entre vivre et exister, c'est-à-dire subir le temps qui passe. C'est quelque chose de difficile de poser ce regard. Est-ce que je suis là où Dieu me veut ? Est-ce que j'accomplis la volonté de Dieu dans ma vie ? Est-ce que je suis dans le jour ? Il y a 12 heures dans le jour. Est-ce que tu es dans ces heures-là? Ou est-ce que tu es dans les heures de la nuit où tu as décidé de ne plus faire ce pour quoi Dieu t'a appelé? Je ne sais plus, je crois, c'est avec quelqu'un, je disais cette semaine, Rimbaud a été dans la lumière poétique jusqu'à 24, 25 ans. Et puis, il a décidé de faire le trafic d'armes, de partir en Afrique, etc. Il n'a plus écrit une seule ligne. C'était la nuit dans sa vie en tant que poète. Qu'est-ce que sera ma vie? Quel est l'appel que Dieu fait retentir en moi? Et il est toujours temps, parce que rien n'est définitif jusqu'au dernier instant, il est toujours temps d'être vivant. Là, c'est une citation que je tire d'un pont sur la quatre voies entre Lorient et Vannes, ou d'un très grand philosophe, c'est François Valéry, je crois, « Aimons-nous vivants ». Bon, ça, c'est pas pour vous, vous connaissez pas. Mais il est toujours temps d'être vivant. Même Nicodème, qui était vieux et âgé, Jésus lui dit, « Tu peux naître maintenant de nouveau. » Alléluia. Alors, si quelqu'un marche pendant la nuit, c'est celui qui déciderait de prolonger sa vie en reniant son appel et l'œuvre qui lui est échue. C'est prolonger sa vie, mais en sortant de la vie divine, en sortant de la lumière de Dieu qui n'est plus en lui, ne lui sert plus, ne peut plus servir à le diriger. Waouh ! Alors, il y a les disciples qui entendent ça. Et puis, moi, j'aime beaucoup la petite phrase de ce disciple que j'affectionne particulièrement. C'est Thomas. Thomas, au verset 16, dit, quand il entend que Jésus veut retourner là où c'est dangereux, j'imagine le ton de Thomas qui dit aux autres disciples, « Bon, bah ok, allons-y. On va mourir avec lui. » Sous-entendu, « Bon, bah on va faire ce qu'il faut, mais on va le suivre. Mais c'est mal barré pour nous. Hein. » Alors, j'aime bien Thomas parce que ça parle d'un homme qui, au verset 14, verset 5, disait à Jésus, « Nous, on ne sait pas où tu vas. Comment en saurions-nous le chemin ?» Hein, c'est le type, il dit, « Moi, je ne sais pas où tu vas, là, tu veux retourner là. D'accord, bah, tu y vas. Nous, on te suit. Qu'importe ce qui va nous arriver, mais ce n'est pas bon signe. » Thomas, c'est celui qui est caractérisé par beaucoup de franchise et de résolution, mais peu de disposition à subordonner le visible à l'invisible. Ah, il est plein de franchise, il dit ce qu'il pense. Moi, quand Jésus est ressuscité et que les autres l'ont vu, il dit, moi, quand il n'était pas présent, quand Jésus est arrivé, il dit, oh, moi, si je ne mets pas mes doigts dans les empreintes des clous dans ses mains ou dans la plaie de son côté qui a été percée par la lance, je ne croirais pas. Ah, il est franc du collier. Plein de bonnes résolutions. Allons-y, allons mourir avec lui. Mais il n'a pas les dispositions pour subordonner par la foi, le visible à l'invisible. Thomas, c'est un nom araméen qui est peu courant. Quasiment, il est apparu à partir de ce personnage des évangiles, à partir du IIe siècle, de manière beaucoup plus récurrente. En araméen, c'est Thomas. Mais en grec, dans l'évangile, il est dit à deux reprises, 20, 24 et 21, 2, que il est surnommé Didyme, le jumeau. Et pour beaucoup d'exégètes, le fait qu'il soit surnommé le jumeau, en hébreu, en araméen et en grec, ça veut dire qu'il a deux personnalités différentes. On ne voit pas son frère jumeau. Hein. Nous, on a la chance, on a une paire de jumeaux. C'est-à-dire qu'on en a quatre. Hein. Je traduis parce que ça y est, il a fait une erreur. Les jumeaux, ils sont toujours pas. Nous, on en a quatre dans l'Église. Parfois, on en voit un, deux, trois ou quatre, mais on les voit. Thomas, on n'est pas au courant d'un autre jumeau. Par contre, les exégètes disent, mais Thomas, en fait, il est surnommé le jumeau parce qu'il a deux personnalités. Un nom qui fait allusion à la double nature de Thomas, qui portait en lui comme deux natures, croyant et incrédule. Jacob et Ésaü. Et vous savez quoi ? Je crois que nous sommes tous avec des jumeaux de cette nature à l'intérieur de nous. Des moments où nous croyons, des moments où nous sommes comme Thomas. On dit, bon, bah, ok, on y va, mais on ne sait pas où on va, mais on va y aller quand même. On se soumet sans comprendre le sens de l'invisible, de la personne de Christ, de la présence de l'Esprit-Saint qui est là pour nous conduire dans toute la... On y va comme une vache va à l'abattoir. Oui, Seigneur, je t'obéis. Ok, ok. Ça va être dur, ça va faire mal, mais j'y vais. Je suis croyant, je t'obéis. Alors que ce que Dieu souhaite, et ce que Jésus souhaite pour Thomas, c'est qu'il puisse avoir la foi dans l'invisible et dans la personne qu'il est. Pas simplement qu'il l'aime. Par amour, on peut suivre l'autre. Mais c'est pas simplement, je veux pas simplement que tu m'aimes, je veux que tu crois en moi. Est-ce que nous pouvons faire ce chemin-là dans notre vie ? Ne pas suivre Christ comme une vache à l'abattoir, parce qu'on est obéissant, parce qu'on est soumis, mais parce qu'il y a avec lui une foi profonde de celui qu'il est pour moi. Hein ? Lorsque Jésus se met en route, il va à la rencontre de Marthe et de Marie, et il est dit que dans un premier temps, il rencontre Marthe, il est dit que lorsqu'elle est avertie que Jésus est arrivé, eh bien, elle sort de chez elle, elle va à sa rencontre. C'est-à-dire que c'est la plus dynamique. Les deux sœurs sont à la maison, mais Marthe, sans avertir sa sœur, elle taille la route. Ça, c'est Marthe. Marthe, elle est là pour faire agir. Hein, c'est une personnalité. Quand on voit dans Luc le moment où elle accueille Jésus et ses disciples, elle commence à faire le poulet, à mettre la table, à tailler les légumes, à sortir le pain, à faire cuire le pain, etc. Enfin, c'est Marthe. Il y en a plein des Marthes. Peut-être même que je suis... Je regarde quelqu'un parce que j'ai partagé ce texte de Marthe et Marie il y a au moins 20, 30 ans avec elle. Puis elle disait, mais moi, je suis Marthe. Moi, je trouve qu'elle est bien Marthe. Je vois pas où est le problème. J'ai même une dame d'origine du Maghreb avec laquelle je partageais. Et quand je disais, mais alors, qu'est-ce que vous pensez de Marthe et Marie ? Et elle m'a répondu, oh Marthe, quelle femme magnifique. Tout à fait le modèle de femme qu'on devrait toutes être. Marie, et texto, hein, je sais, restez gravé, Marie, quel pain bêche. Ben bon, c'est la première fois qu'on me disait ça, Marie, quel pain bêche, mais pourquoi pain bêche ? Ben elle est assise, elle fait rien. On dirait une ado assise sur le canapé alors qu'on prépare le repas. Non, c'est pas vous, c'est pas vous, c'est pas vous. Vous sentez pas visé. Elle met la table et tout. Non, c'est... Mais Marie, assise par terre, elle écoute Jésus. Eh bien, Marthe, au moment où son frère est décédé, qu'elle a fait appeler le Seigneur, elle sait qu'il est là, elle file. Et il est dit qu'au moment où elle le voit, elle lui dit, mais si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Et puis là, il y a une discussion entre Jésus et Marthe. Jésus qui dit, mais est-ce que tu crois qu'à la résurrection ? Il dit, mais oui, bien sûr, il ressuscitera à la fin, dans le royaume de Dieu. Pas de doute. Et Jésus... lui dit, moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? Et le crois-tu cela ? Il s'adresse à nous aujourd'hui. Est-ce que tu crois cela ? Et Marthe répond, oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. Après avoir dit cela, elle s'en alla. C'est-à-dire que quelque part, elle n'ose pas croire que lorsque Christ dit « Je suis la résurrection et la vie », ce soit pour aujourd'hui et maintenant. C'est pour après, à la fin. Oui, je crois. Et quand tu lui dis « Mais est-ce que tu as conscience que je suis la résurrection ?» Elle dit « Oui, mais elle ne veut pas exprimer ce que pourrait être l'interprétation de cette parole dans la réalité vis-à-vis de Lazare. » Mais elle le croit. C'est quelqu'un de pragmatique, Marthe. Je suis sûr que parmi nous, il y a, hommes et femmes confondus, beaucoup de personnes qui sont pragmatiques et qui croient avec force raison à ce que Dieu dit. Mais est-ce que par la foi, je peux dépasser ce que ma raison me dicte ? ou m'impose. Marthe, les fleurs, à cause de sa personnalité. Elle va chercher sa sœur et Marie vient. Et vous avez vu dans le texte, Marie dit la même chose. Si tu avais été là, il ne serait pas mort. Ce qui est intéressant, c'est que Marie s'arrête là. Elle ne va pas plus loin. Elle ne rentre pas dans un discours théologique ou doctrinal sur la résurrection, pas la résurrection. Non, non. Elle dit, si tu avais été là, il ne serait pas mort. Et ce qui est très intéressant, c'est autant Jésus, vis-à-vis de Marthe, entame un dialogue, un échange pour que la foi et la parole de Christ et la puissance de résurrection de Christ puissent, je dirais, remplacer le raisonnement, la sagesse, l'intelligence de Marthe. Autant vis-à-vis de Marie, il s'arrête là. Il est dit que lorsque Marie prit la parole, elle se mit à pleurer. « Si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Quand Jésus vit qu'elle pleurait et que les Juifs venus avec elle pleuraient aussi, il frémit en son esprit et fut troublé. Avec Marie, il a une autre attitude. Il la voit pleurer. Il pleure avec elle. Il y a de l'empathie. Il s'adapte à la personnalité des deux sœurs et il répond à leurs besoins. Parmi nous, je suis sûr qu'il y en a. Moi, c'est ce que j'appelle les chouchous de Seigneur. Ceux qui peuvent sentir la tendresse, l'amitié, l'amour, et avec lesquels Dieu va avoir cette attitude de Jésus vis-à-vis de Marie. Parfois, quand je regarde l'expérience, le parcours des uns et des autres, je me dis, c'est des chouchous. Moi, j'aimerais bien que sentir l'amour comme ça. Mais moi, je suis aussi plutôt Marthe que Marie. Alors, il me rencontre sur mon terrain. Il argumente, il me dit, mais enfin, est-ce que tu crois? Est-ce que tu sais? Est-ce que... Aime-moi peut-être aussi, comme Marie. On est parfois jaloux de son frère ou de sa sœur. Non? Non. Il pleure avec elle. Il se met à son niveau. Christ est capable, dans ta vie et dans ma vie, de te parler là où tu es et comme tu es, avec la personnalité et les besoins qui sont les tiens. Est-ce que tu veux te laisser gagner par ce désir de Christ de te rencontrer là, de cette manière-là? Alors, certains disent que dans ce texte-là, le centre du texte, c'est la question de la résurrection et de la vie. Oui, c'est un point essentiel de ce texte. Mais pour beaucoup d'exégètes, ce qui est au centre de ce texte-là, c'est ce verset quand il pleure avec Marie qui dit « Il frémit en son esprit et fut troublé ». En fait, ce verset-là, ces mots-là, sont le moment de bascule entre l'avant et l'après dans le ministère de Jésus. Rappelez-vous, les Juifs cherchaient à le faire mourir. Il a continué, il est parti même au-delà du Jourdain pour continuer son ministère. Mais lorsqu'il commence à pleurer avec Marie, il est troublé. Et à ce moment-là, il est dit qu'il a frémi en son esprit. L'esprit, dans la perception de l'être humain, c'est une des parts, corps, âme, esprit. Le corps qui nous permet d'être en relation avec notre environnement, de toucher, de sentir, de respirer. L'âme qui est le siège de nos sentiments, de nos émotions. Et l'esprit qui est ce qui est particulier à l'homme, c'est ce qui lui permet d'être en relation spirituellement avec les puissances qui nous entourent, mais avec le beau. C'est parce que nous sommes un être spirituel que nous pouvons aimer un beau tableau, une belle musique. Les animaux, vous leur passez du Mozart, du Bach ou des Foo Fighters, ils ne voient pas la différence. Hein. Pour ceux qui ne savent pas ce que sont les Foo Fighters, vous allez voir Lily. Elle a été élevée à ça au biberon. Hein. Mais c'est ça le spirituel, c'est ce qui nous permet d'être en accord avec le beau et surtout cette partie esprit qui nous met en rapport avec le monde de Dieu et du divin. Et aussi des puissances de l'adversaire. C'est cela, c'est notre esprit. Il est dit que Jésus frémit en son esprit. Pourquoi ? Ce n'est pas simplement parce que il pleure et qu'il il est triste par rapport à la mort de Lazare ou qu'il voit la tristesse et la souffrance de Marie. Non, il frémit parce qu'il sait. Et cela, c'est les exégètes, notamment, qui le retirent des mots « aimer ». Lorsqu'il est parlé d'aimer, c'est « philéo » qui lui est renvoyé. Quand lui, il parle d'aimer, dans ce texte de Jean, c'est « agapé ». Il aime d'un amour vrai, profond, total. Et il sait qu'au moment où il va agir, face à la demande de Marie, dès lors qu'il accomplit la résurrection, lui-même est condamné à mort. Il le sait. Ses ennemis, et c'est ce qui va se passer au chapitre 12 de Jean, c'est regardez la construction, derrière, vous avez le Sanhédrin qui se réunit et qui dit « Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» Et vous avez Caïphe, Caïphe qui est le souverain sacrificateur depuis, qui a vu tout le ministère de Jésus, ce qui est très particulier, puisque quand les Romains sont arrivés en Palestine, ils ont vu ce système de sacrificateurs, ils ont dit « oh là là, ça ne va pas, cela. Si on a un sacrificateur qui est là trop longtemps, ils vont prendre confiance en eux, ils vont être une force religieuse, voire politique. » Donc, le gouverneur de Judée, entre autres, a décidé que le souverain sacrificateur serait remplacé. Et il en a mis un. Puis au bout d'un an, il en a mis un deuxième. Puis au bout d'un an, il en a mis un troisième. Puis un quatrième. Et puis le cinquième, ça a été Caïphe. Et Caïphe est resté en place 11 ans. Il a vu tout le parcours de Jésus. Et si lui, quand il y a la résurrection de Lazare, qui dit, eh bien, maintenant, il vaut mieux qu'il y en ait un qui meure en Israël, plutôt que nous tous. Et donc, il condamne avec le Sanhédrin Jésus. Après la résurrection de Lazare, quand Jésus frémit à son esprit, en fait, il frémit parce qu'il sait que dès le moment où il accomplira la résurrection de Lazare, c'est ce qui est dit au tout début du texte, il glorifiera Dieu et lui-même sera glorifié comme fils de Dieu. Il sera glorifié. Au moment où il dit « Lazare, sors !» il accepte sa condamnation à mort à lui. Est-ce que nous lisons cela quand nous lisons cette résurrection ? Est-ce que nous avons conscience que quand il frémit en son esprit, ce n'est pas au niveau des sentiments, de l'âme, mais dans son esprit, dans sa relation avec le Père, il dit « Voilà, je suis là pour faire ta volonté !» C'est cela qui se passe dans ce texte-là. Il frémit parce qu'il sait qu'il se condamne à mort. C'est Apollinaire qui disait, en parlant de ce texte, que jusqu'à la passion, jusqu'à ce temps de la résurrection de Lazare, les juifs, sous-entendu les religions, n'avaient aucun pouvoir, aucune capacité à agir et à se saisir de Jésus. Dès le moment où il ressuscite Lazare, il signe son arrêt de mort volontairement. Waouh ! Et la question qu'il pose, c'est « Où l'avez-vous mis ?» Moi, je suis toujours étonné des questions de Jésus comme ça, parce que c'est comme pour la Nathanaël, vous savez, qui s'approche Jésus, le voyant venir, dit à ses disciples, « Regardez, un homme dans lequel il n'y a pas de fraude. » Et Nathanaël dit, « Mais comment ça tu racontes ça pour m'engager, mais comment tu peux savoir qu'il n'y a aucune fraude ?» Et là, Jésus dit, « Mais quand tu étais de l'autre côté de la ville, assis sous ton figuier, eh bien, moi, je te voyais. » Oh, Jésus peut voir de l'autre côté de la ville. Mais dans le récit de la femme victime d'une perte de sang, il y a une femme qui est à 50 centimètres, qui touche sa robe et qui est guérie parce qu'elle croit que Christ peut... Que dit Jésus ? Qui m'a touché ? Attends, Moi, j'ai toujours eu cette interrogation. Je dis, comment il peut voir quelqu'un qui est de l'autre côté de la ville, assis sous un figuier, et il ne voit pas qui l'a touché à 50 cm de lui ? Parce que la question n'est pas qu'il ne sait pas, mais c'est comment les autres vont se saisir de cette interrogation. Lorsque la femme, victime d'une pierre de sang, le touche, Jésus se retourne. Donc, dans le texte, c'est le texte qui le dit, il se trouve face à elle. Qui m'a touché ? Face à face. L'important, ce n'est pas sa question, c'est comment elle va répondre pour sortir de sa honte, de son sentiment de culpabilité, d'impureté. Là, où l'avez-vous mis ? Moi, j'ai envie de dire que les morts sont à l'écart dans la culture juive parce qu'il est interdit, notamment pour ceux qui sont de la tribu de Lévi, mais pour les autres aussi, par culture. La mort, c'est l'impureté, c'est le péché, et il n'est pas bon de toucher ou d'être en présence. C'est pour ça que, outre la chaleur, l'enterrement se fait vite. Je me rappelle qu'à Marrakech, quand on était parti avec notre chauffeur de car pour une virée dans le Moyen Atlas, il nous racontait l'histoire d'un collègue qui est parti avec des touristes comme nous. Le soir, quand il est rentré, sa femme était décédée dans la journée. Elle était déjà enterrée. Il dit, vous savez, chez nous, c'est comme ça. Lazare, c'est ce qui s'est passé. Où l'avez-vous mis ? Mais j'ai envie de dire, est-ce que ce n'est pas aussi une question qui s'adresse à nous ? Où est-ce que tu as mis ce qui était mort en toi ? J'ai envie de dire, un double sens. Où est-ce que tu as mis ce qui est mort en toi et sur lequel tu as mis une croix ? Dans tous les sens du terme. Il y a peut-être des choses qui... Tu sais que Dieu t'avait donné cela, que c'était présent dans ta vie, et tu considères que c'est terminé. Et moi, j'affirme et je dis, où est-ce que tu as mis cela ? C'est la parole que Christ fait retentir à toi. Et il te dit, où est-ce que tu l'as mis ? Afin que je le rende vivant tout à nouveau. Je peux et je suis la résurrection et la vie, dit-il. Est-ce que tu crois cela, Marthe ? Ou est-ce que tu veux rester Marthe ? Est-ce que tu veux croire que ce qui est mort peut tout à nouveau être vivant en toi ? C'est ton choix. Ce qu'on disait dimanche dernier. Choisis ! Je mets devant toi le chemin de la vie et de la mort. Choisis la vie ! Et la bénédiction, où l'avez-vous mis ? Après, la parole qu'il donne est simple. Ôtez la pierre. Ôtez la pierre. Il y a eu des... Le tombeau de Lazare est sous-entendu dans la ville où est censé être toujours présent. Donc il y a évidemment quelque chose qui a été bâti dessus, une église, une chapelle, etc. Mais celle du Christ aussi... Il y a toujours, on essaye de retrouver les endroits importants comme ça, mais là, il est dit ôter la pierre. Il y a toujours des pierres qui viennent boucher ce qu'on a enterré en nous et dont on pense que ce n'est plus accessible. Or, l'ordre de Christ pour que la vie revienne dans ce qui est mort, c'est d'enlever la pierre, que celui qui est dans le tombeau, il n'est pas toujours à même de se libérer, mais Christ peut le libérer. Son Esprit Saint peut le libérer. Sa parole peut me libérer. Pourquoi lire la parole ? Je relisais ce livre, Les Limitations de Jésus-Christ. Parce qu'elle est libératrice. Elle peut me rendre libre, m'affranchir. C'est parfois des pierres de plusieurs centaines de kilos. C'est pour ça que les soldats romains étaient étonnés de voir qui a touché cette pierre, qui l'a enlevée. Etc. La puissance de vie et de résurrection est capable de faire rouler les pierres les plus lourdes dans notre vie qui empêchent des domaines de notre existence qui nous ont été donnés par Dieu d'être pleinement vivants. Hein ? Ô mort, dit Paul aux Corinthiens, où est ta victoire, ô mort ? Où est ton aiguillon ? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia ! Et j'ai envie de dire que Christ se tient devant notre vie comme il se tenait devant le tombeau de Lazare. Et l'avant-dernière parole dans cette scène, c'est « Lazare, sors !» Lazare, sort. En grec, c'est même plus lapidaire que ça, c'est « Lazare, ici sors du tombeau !» Il s'agit d'un ordre donné à Lazare de sortir de la mort et de son royaume. Ôtez la pierre. Est-ce que nous aurons le courage et la foi nécessaires pour dire, nous aussi, ou entendre cet ordre de Christ qui dit « Sors de ta prison, sors de ce qui t'enferme et reviens vers la vie. » Quel que soit l'état dans lequel vous êtes, Marthe dira à Jésus «
Ça fait 4 jours, Seigneur. » Je pense qu'elle parlait un peu comme ça, à ce moment-là. Ça fait 4 jours, il sent un petit peu.
Dans ces pays-là, la chaleur fait que les corps se décomposent rapidement. Pour Marthe, c'était certainement aussi une parole pour Jésus, par respect pour lui, de ne pas être confronté à la décomposition de son ami, mais c'était aussi certainement un désir de ne pas infliger à celui qui avait été aimé, au Lazare qu'ils avaient connu, je dirais, cette offense de l'odeur qui pouvait parler de la mort. Dans quel état es-tu? Qu'est-ce qui est mort en toi? Peut-être que tu as tendance à penser qu'il vaut mieux laisser la pierre devant, pas y toucher, plutôt que de prendre le risque d'exposer ce qui est mort. Mais Christ dit, n'aie pas peur. Parce que j'appelle à la vie ce qui est mort en toi. Je t'appelle à être vivant. Sors. Il y a un prédicateur qui disait, pourquoi il dit « Lazare, sors !» Il dit parce que la puissance de Christ est tellement, tellement évidente que s'il n'avait pas précisé « Lazare », tous les morts seraient sortis de leur tombeau. Mais c'est ce qui s'est passé au moment de la crucifixion. Il est dit dans un évangile que les tombes se sont ouvertes et que la ville a été envahie par des gens qui étaient morts. La puissance de résurrection est une réalité. Pas seulement pour demain, comme le disait Marthe, mais je sais qu'on ressuscitera. Non, c'est maintenant, aujourd'hui et maintenant, que tu peux ressusciter et être vivant. Et ce que dira Christ au dernier moment dans ce récit, c'est, voyant le mort sortir, il dit aux autres, déliez-le. C'est-à-dire, enlevez tout ce qui est le symbole de la mort. Il avait été, malgré tout, dans la rapidité, embaumé. Il avait été la tradition égyptienne, c'était qu'on enlève les entrailles, qu'on embaumait, mais on pouvait séparer aussi les membres et faire en sorte qu'on embaume et qu'on mette des bandes autour de chaque jambe, de chaque bras, etc. Chez les Juifs, la tradition, c'était vraiment de ne pas embaumer, mais d'entourer le corps avec des aromates et puis avec des bandes de linge. On voit que la momie sort plus ou moins liée, mais Jésus dit « déliez-le ». Et ce « déliez-le », c'est aussi quelque chose qui est important. C'est qu'une fois qu'on revient à la vie, comme Lazare, revenir à la vie, c'est une chose, mais doit-on garder les liens qui sont ceux de la mort? Et vous savez quoi? C'est possible. Oui, c'est possible. Il y a plein de chrétiens, moi y compris, qui parfois disent « j'accepte la vie de Christ, j'accepte d'être vivant, mais il y a des choses que je conserve parce que je ne veux pas forcément que... je veux pas que le Seigneur y touche pour le guérir ou m'en libérer. » Vous savez, c'est un peu comme les enfants. Vous avez connu ça quand vous étiez enfant. Quand on tombe, c'est qu'on s'est grigné les genoux, et puis qu'il y a la maman qui vient avec de l'alcool à brûler, dit non, surtout pas, touche pas, ça va piquer. Oui. Déliez-le. Non, ça va piquer. Oui, ça peut piquer. Mais être délivré pleinement, laisser ce qui est de la mort être enlevé pour être libéré. Le Seigneur nous veut libres. Libres, et c'est son plan pour nous. Alors, voyez, quelques pensées sur ce récit de Lazare et Dieu qui dit, voilà, Lazare, sort. Mettez votre prénom à la place et laissez l'Esprit de Dieu accomplir son œuvre de libération dans vos vies, et je veux dire dans ma vie aussi. Seigneur, tu as frémi en ton esprit parce qu'en acceptant d'accomplir ce miracle devant le tombeau de Lazare, tu signais volontairement ton arrêt de mort. Et c'est ce qui s'est passé. Le jour suivant, les autorités ont décidé de te condamner. Mais je sais que c'est toi qui t'es livré. Ce ne sont pas les hommes qui t'ont condamné. Tu t'es donné. Et tu t'es donné pour que je sois aujourd'hui appelé à la vie pleine et entière avec toi. Alors Seigneur, je veux entendre ta voix qui crie mon nom. Et je veux que ce nom soit résonance dans les lieux célestes pour dire « Il est appelé à la vie ». Je veux, Seigneur, voir la pierre rouler pour que ta lumière pénètre au plus profond des ténèbres de la mort. Je veux, Seigneur, que tous les liens qui sont les caractéristiques de ce qui est mort soient retirés au fur et à mesure pour que ta vie soit pleine et entière. Donne-nous, Seigneur, d'être de ceux qui acceptent de revenir à la vie en toi. Amen.